7h48.
Matin première, 6h-8h30.
Très beau début de journée avec nous. Nous commentons tout au long de cette semaine les temps forts de l'année presque écoulée. Aujourd'hui, l'actualité judiciaire avec l'une de nos journalistes et spécialistes à la rédaction, c'est Mélanie Joris. Bonjour Mélanie.
Bonjour Pascal. Et oui, c'est vrai, cette année a été riche en matière judiciaire. Alors nous avons identifié plusieurs thèmes, dont le procès évidemment des attentats du 13 novembre, la traque du militaire Jürgen Konings et le trafic de drogue en Belgique. Et nous allons aborder ces thèmes avec notre grand témoin, Michael Dantine, criminologue à l'ULG et membre du Centre d'études sur le terrorisme et la radicalisation.
Bonjour Michael Dantine.
Bonjour.
Et tout de suite, notre premier grand thème, c'est celui du trafic de drogue.
Une vaste opération policière s'est tenue aux petites heures ce matin dans la région liégeoise. La police fédérale de Liège a démantelé un réseau de trafiquants de cocaïne.
On a retrouvé 1,6 tonne de cocaïne sous différentes formes. La valeur à rue est d'environ 80 millions d'euros.
Dès 5 heures du matin, plus de 1100 policiers se déploient dans le pays. Les unités spéciales pénètrent dans plusieurs bâtiments. Ils craignent le face-à-face avec des individus lourdement armés.
Le but de l'opération, c'était de démanteler effectivement l'organisation. Et donc à tous les niveaux, nous avons des courriers, mais nous avons aussi des gens qui sont haut placés dans l'organisation.
Michael Dantine, on l'a vu, ces perquisitions dans le milieu de la drogue, elles se sont multipliées. Elles ont été rendues possibles notamment grâce à une autre opération de grande ampleur. C'était le démantèlement du réseau Sky ICC. Alors peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler ce qu'est ce réseau de communication.
Alors c'est un réseau de téléphonie sécurisé, en tout cas que les criminels organisés qui se sont fait attraper pensaient totalement sécurisé, et au travers desquels ils communiquaient pour s'organiser, pour se coordonner dans des formes de criminalité, en l'occurrence le narcotrafic, qui sont transnationales par essence. Les polices ont réussi à les infiltrer, ces réseaux, et donc ils ont pu glaner des informations, ce qui leur a permis de réaliser ce grand coup de filet auquel nous avons assisté dans cette année presque terminée.
Oui, et c'est en s'infiltrant dans ces réseaux, en analysant ces milliers de communications, qu'on a pu avoir donc une autre vision de la place de la Belgique dans le trafic de la drogue. Jusqu'à présent, on voyait surtout la Belgique comme un pays de transit. Et puis là, on se rend compte finalement que notre pays n'est pas seulement un pays de transit, mais aussi un pays où la drogue est produite dans des laboratoires. Alors, quelles conclusions on peut tirer de cette évolution ?
Alors peut-être qu'il y a eu un glissement, en effet, d'un pays dans lequel on amène de la matière plus première dans des entrepôts. Effectivement, on était plutôt un pays de transit parce qu'on a un grand port, un bon réseau autoroutier, un pays aussi de destination parce qu'on vend de la drogue en Belgique. Mais là, le fait d'avoir établi des entrepôts, des laboratoires, pourrait laisser à penser que l'on a changé de statut au niveau de notre pays. Et peut-être aussi que ce fait a donné de la lumière, si vous voulez, sur le phénomène de la criminalité organisée. Il faut savoir que le narcotrafic, c'est 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, 250 millions de consommateurs. C'est avec ça de la corruption, du blanchiment de capitaux, de la violence, de l'intimidation, et puis toute une série de trafics liés, trafic d'êtres humains, contrebande diverses, trafic d'armes, et des liens de connexité avec le terrorisme, on l'a vu, et aussi le financement d'opérations militaires. Donc c'est vraiment une problématique importante, et on a vu qu'elle concernait la Belgique, ça on le savait, peut-être d'une autre manière.
La Belgique, et puis aussi des lieux très reculés, hein, où les labos étaient installés de manière tout à fait incognito.
Mais oui, parce qu'on profite, si vous voulez, par exemple, d'entrepôts désaffectés en périphérie des villes, ou carrément de lieux dans des zones rurales, peu surveillées, avec peu de densité de population, on peut aller et venir à sa guise, sans risque d'être détecté. On parle ici de criminels organisés, ce sont des professionnels du crime, c'est leur activité principale, et ils cherchent les meilleures opportunités, et vraisemblablement, certains en avaient trouvé ici en Belgique, on voit aussi qu'ils sont prêts à tout, extrêmement dangereux. Ce sont des gens motivés par des gros profits, et donc pour eux, ça justifie toutes les violences.
Ouais, vous parlez de gros profits, de beaucoup d'argent, et qui dit beaucoup d'argent, dit aussi sans doute corruption et blanchiment. Ça nous permet, Mélanie, de passer au deuxième thème, deuxième grand thème de cette rétro.
Oui, et c'est le thème du Footgate, qui a commencé bien avant 2021, mais qui voit ses derniers développements en cette fin d'année, avec l'agent de joueur Dejan Veljković, qui a obtenu son statut de repenti. Mais prenons d'abord la base. C'est pas très courant dans notre pays, ce statut de repenti. Alors, qu'est-ce que c'est ce statut ? Pourquoi est-ce que Dejan Veljković est le premier à en bénéficier ?
Eh bien, il est le premier de l'histoire belge à en bénéficier. C'est un statut qui existe d'ailleurs dans d'autres législations, dans d'autres pays, pour permettre justement, sur des phénomènes de criminalité extrêmement opaques, cachés, frappés par la loi du silence, de bénéficier des informations privilégiées d'un insider, lui aussi auteur d'infraction et à qui l'on assure une forme de remise de peine, relative ou totale, en échange des informations qu'il s'apprête à produire, parce que l'on estime que ces informations-là, on ne pourra pas les glaner sans lui. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière en donnant un ensemble d'informations qui ont été vérifiées sur les fraudes qui avaient cours dans notre football, qui avaient ou qui ont toujours cours, ça l'avenir nous le dira. Et c'est pour ça qu'il a bénéficié de ce statut.
Mais justement, l'affaire n'est pas terminée. Là, on attend de la part du parquet les noms des inculpés qui seront renvoyés en correctionnel. Est-ce qu'on peut se dire que dans le monde du football, certains sont inquiets à l'heure actuelle ?
Ah, je pense que la liste sera longue. Alors, ils bénéficieront tous de la présomption d'innocence jusqu'à une éventuelle culpabilité dans un jugement. Mais ce que le système Veljkovic a mis en œuvre, et je rappelle que dans le foot belge, il n'y a pas qu'une enquête sur Veljkovic, il y a aussi une autre enquête et puis d'autres enquêtes qui ont métastasé autour. C'est justement ce qui est frappant, c'est la diversité, la profondeur de ces fraudes. Et au final, c'est peut-être caricatural de le dire, mais la liste de ceux qui ne seront pas égratignés risque d'être un peu moins longue que la liste de ceux qui le seront. Et ça en dit long, je pense, sur l'ampleur et la normalisation de comportements frauduleux.
Pour terminer sur ce thème, c'est une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que le monde du football belge peut saisir cette opportunité pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes ?
Il le devrait. Mais de mon expérience en observateur et analyse de la criminalité économique et financière bien au-delà du monde du football, on sait souvent que l'histoire repasse les plats et qu'en fait les facteurs, si vous voulez, qui ont contribué à l'émergence de ces fraudes un peu généralisées, de l'argent facile sur une transaction, en fait tout ce qu'on va appeler nous les facteurs de criminogénéité, ils sont toujours là. Donc il faudra déployer beaucoup d'énergie pour arriver à assainir le football.
Et nous passons à notre troisième thème, on l'a qualifié d'historique avant même son ouverture, c'est le procès des attentats du 13 novembre à Paris.
Oui, un procès qui doit durer 9 mois. Commencé en septembre avec un verdict attendu début juin. Alors replongeons-nous dans les moments forts des audiences qui se sont déjà déroulées devant la cour d'assises de Paris.
En ce 13e jour d'audience du procès des attentats du 13 novembre 2015, les premiers témoignages des parties civiles.
Le bruit assourdissant des explosions, les cris, l'odeur du sang, ce sont des événements soudains auxquels nous n'étions pas préparés.
Ce sont les personnalités des 14 accusés qui vont à présent être interrogés. Le premier à s'être exprimé, c'est Salah Abdeslam.
Lorsqu'on a vu Abdeslam, un petit garçon qui répondait gentiment aux questions.
Avec cette semaine, l'examen de la personnalité des accusés.
Ils ont tué ma fille, ils ont foutu en l'air notre vie familiale. Qui sont ces êtres humains.
La suite et la fin aujourd'hui des auditions des policiers fédéraux belges.
Imprécis, soporifique, éludant volontairement les questions qui dérangent, les critiques n'ont cessé de fuser.
Alors Michael Dantine, ce procès, on l'a qualifié avant même son ouverture d'historique, mais est-ce qu'il va pouvoir apporter toutes les réponses attendues ou au contraire, est-ce qu'il ne va faire que susciter des frustrations ?
Je pense que ce sera les deux. Il y aura quelques réponses, en tout cas une réponse qui sera la réponse judiciaire, qui dira voici ce qu'il s'est passé et voici les sanctions des coupables. Et ça, c'est important sur un plan symbolique et démocratique. Après, je pense qu'il y aura beaucoup de frustration parce que tout le monde va mentir un peu. Puis il y aura beaucoup de zones d'ombre. Et puis surtout, je pense qu'il y a deux facteurs qui sont importants. Le premier, c'est que les principaux protagonistes, ils sont morts dans les attentats suicides. Et ça, pour l'expression, si vous voulez, de la colère, de la tristesse, voire même de la vengeance, qui est consubstantielle à tout procès. À toute peine pour les victimes, c'est difficile. Puis le deuxième problème, c'est qu'évidemment, on va avoir peut-être une déviation qui est liée à ce que je viens d'expliquer dans ce procès, et on l'a vu, à savoir qu'on se trompe peut-être un peu de cible. C'est le procès des accusés dans le box, pas le procès des enquêteurs ou d'une enquête mal faite. Il ne faut jamais oublier que si ces individus ont agi dans un contexte de groupe, dans une société donnée, ils ont quand même exercé leur libre arbitre, et on ne pourra jamais dire qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'on ne les a pas empêchés. Ça, c'est vraiment un mauvais procès, et je pense que ça, c'est la plus grande source de frustration possible. Si le tir n'est pas rectifié d'ici la fin de celui-ci.
Depuis justement les interrogatoires des policiers belges, on sait qu'Abdeslam et Krayem refusent de revenir dans le box des accusés. Michael Dantine, est-ce que ça va changer quelque chose au cours du procès, ça ?
Pas forcément. Je suis assez surpris de cette ligne, notamment pour Salah Abdeslam, qui avait réfuté dans son procès de la rue du Driss, finalement, la légitimité de la justice et du droit, et qui ici proteste contre ce qu'il estime être un déni de droit, c'est-à-dire la possibilité d'avoir ses auditions en présentiel de la part des enquêteurs belges. Donc je ne suis pas sûr que ça va changer vraiment le cours des choses.
Et puis on a encore de nombreux mois à voir l'évolution du comportement de Salah Abdeslam. On attendra avec impatience la plaidoirie de ses avocats.
Après le terrorisme, passons à un dossier qui a mobilisé des centaines d'agents au sein de l'armée et de la police cette année. C'est la traque de Jürgen Konings. Elle a commencé en mai 2021, Mélanie.
Oui, ce militaire disparaît dans la nature après avoir envoyé des menaces à l'égard de son employeur, la Défense, mais aussi à l'encontre du virologue flamand Marc Van Ranst. Lorsqu'il disparaît, Jürgen Konings est armé. Son cas est pris très au sérieux. Replongeons-nous dans cette traque hors norme qui a coûté 650 000 euros à la Défense.
Bonsoir à tous. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver le militaire recherché depuis hier après avoir proféré des menaces.
300 militaires, 120 policiers, des chiens pisteurs et le laboratoire sont aussi présents sur le terrain.
C'est finalement dans un bois de la province du Limbourg que le corps de Jürgen Konings a été retrouvé.
C'est un chasseur qui a fait la macabre découverte alertée par une odeur suspecte.
Il était encore porteur de plusieurs armes à feu chargées de munitions, d'un couteau, d'une hache et d'une machette.
Quelques mots d'abord, si vous le voulez bien, Michael Dantine, sur le profil de Jürgen Konings. Qui est-il ? C'est un extrémiste ? C'est un marginal ?
Alors c'est justement un profil très difficile à lire et je pense qu'il est mort avec une partie de l'explication, comme on l'a vu par exemple dans un tout autre registre à Liège avec la fusillade de la place Saint-Lambert et Amrani. Il y avait chez lui vraisemblablement une dimension d'extrême droite qui faisait qu'il était connu pour ses idées et fichées d'ailleurs, mais aussi une dimension anti-mesure Covid, une dimension complotiste aussi qui était marquée. Donc il incarne, si vous voulez, à la fois une menace en tant que lui et puis c'est un révélateur de ce qui est en train de se passer dans notre société. Dire qu'il était plus complotiste qu'extrême droite, on sait que ça fonctionne bien ensemble, ça c'est impossible.
Il a aussi permis de mettre en lumière les graves dysfonctionnements au sein de la Défense, ça a permis de mettre en lumière tous ces problèmes et ça a provoqué pas mal de changements.
Oui, ça en tout cas agit comme un électrochoc, car il est évident que quelqu'un qui est fiché comme lui avec des informations qui sont quand même solides ne peut pas avoir accès, même par, je dirais, de manière fortuite ou frauduleuse, à des armes et des munitions. Ça, c'est complètement impensable et il y a une réflexion à mener à ce niveau-là, bien entendu.
Eh bien, merci Michael Dantine d'avoir fait le tour de l'actualité judiciaire avec nous. On vous entendra certainement encore pour suivre cette actualité l'année prochaine, en 2022.
Et vous également, Mélanie Joris d'ailleurs. Merci, bonne journée. C'est Matin Première et voilà qui lit.